On est en train de longer un paysage à la fois déprimant et opprimant. C'est le mur qui part de Ramallah et qui rejoint le poste de contrôle pour retourner vers Israël. Et c'est terrible, ce mur, on est en train de le longer là, un mur de béton qui grimpe comme ça et qui coupe le paysage, qui coupe la vie, qui coupe la ville en deux. C'est quelque chose de terrible. On revient donc de Ramallah, on retourne vers Israël et il nous arrive plein de choses passionnantes. Par exemple, pas plus tard qu'hier, on a vu l'endroit précis où Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau, comme vous le savez. Où ça? Eh oui, sur le lac Tibériade, enfin dans le lac Tibériade. Hein. Si vous avez pensé dans le lac, ça va pas du tout. C'est sur le lac Tibériade. Eh bien, avec Guy, on a retrouvé l'endroit où Jésus a marché sur l'eau. C'est au milieu, pile poil du lac. Et là, on était en bateau, nous, modestement. On n'a pas essayé de marcher sur l'eau, mais on a trouvé l'endroit, donc, à bord de notre bateau. Nous n'étions pas seuls à bord de ce bateau. Il y avait une représentation d'une fraternité de chrétiens sionistes américains, des États-Unis d'Amérique, qui viennent là visiter Israël, les lieux saints d'Israël, et aider Israël et le peuple juif en général. Et donc le bateau s'est arrêté au milieu du lac de Tibériade, à l'endroit où Jésus a marché sur l'eau, et là on a hissé le drapeau américain, ce que je vous dis est absolument authentique, et on a tous chanté, enfin, sauf Guy et moi, l'hymne américain, la main sur le cœur, voilà, à l'endroit pile poil où donc Jésus a marché sur l'eau. Aujourd'hui, dans la basse, j'y suis, pendant que nous sommes en train de rouler sur des postes, c'était trop, c'est infernal. On va, où ça? On va au Brésil. On va exactement à Marabá, dans l'état du Pará, au Brésil. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, une religieuse, missionnaire, militante, Dorothy Strong, a été assassinée par des pistoleros liés aux propriétaires terriens, aux propriétaires forestiers de la région, les fameux Fazendeiros. On croyait que ces histoires étaient terminées, ces assassinats de paysans sans terre et de militants, de ceux qui défendent les paysans sans terre. Eh bien, on voit que ça continue, malgré évidemment le gouvernement brésilien dans lequel beaucoup dans le monde avaient placé beaucoup d'espoir. Voilà pourquoi nous retournons aujourd'hui dans cet endroit du monde, dont l'un des hauts lieux de cette lutte qui continue est Eldorado dos Carajás, où des militants, des paysans tout simplement, qui n'étaient pas forcément des militants, ont été assassinés il y a quelques années. Auparavant, quelques messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Incroyable! Même les journalistes s'aperçoivent que les grosses entreprises font des profits. C'est un monde merveilleux. Peut-être on va pouvoir discuter au bout d'un moment.
C'est au moment de la débâcle, De Gaulle, alors que le gouvernement doit s'enfuir vers Bordeaux, qui était à l'hôtel Lutetia, et il part vers le convoi donc de repli, et puis brusquement il se ravise, il revient vers la réception, il dit « ma note, je vous prie », et il paye. Voilà, il était ministre de la guerre à l'époque, c'était en pleine débâcle, panique générale. Qu'aurait fait ce jour-là messieurs Guémard, Juppé ou Chirac? Il y a eu De Gaulle, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les gaullistes. Salut.
C'est avec une profonde tristesse que j'apprends la nouvelle. Monsieur Guémard, après avoir emménagé à l'insu de son plein gré dans un misérable appartement de 600 mètres carrés du 8e arrondissement, se trouve brutalement jeté à la rue du fait de journalistes fielleux. Un ministre SDF, quelle misère! J'ai peut-être une solution pour lui et sa nombreuse famille. À Vitry-sur-Seine, depuis 3 ans, existe un terrain de quelques dizaines de mètres carrés, sans eau, sans toilettes, sans électricité, où se sont réfugiés des familles roms. Je suis certain que si on leur demande gentiment, ils se feront un plaisir d'accueillir ce nouveau pauvre parmi eux. Allez, bonsoir.
Qu'est-ce que je viens d'entendre? Je vois que les résultats financiers des entreprises explosent. Total, plus 23% d'évolution 2003-2004. BNP Paribas, plus 24%. L'Oréal, plus 143%. Renault, plus 55%. Arcelor, plus 872%. Bouygues, plus 41%. À noter au passage que le patron de Total gagne 2 700 000 euros de salaire annuel et que le patron de L'Oréal, le PDG, gagne 6 500 000 euros par an. Alors, aux actualités de 13 heures, on a le culot de nous annoncer que les groupes financiers explosent et tout de suite après, les images qui suivent nous font voir des gens qui vont à la soupe populaire. Quelle honte! Et on nous parle des droits de l'homme bafoués dans certains pays, mais de qui se moque-t-on? Quand on nous dit que les patrons ont trop de charges, qu'ils ne peuvent pas embaucher ni augmenter les salaires, que les 35 heures reviennent chères, ils font du chantage à l'emploi pour pouvoir supprimer des postes et de toute façon délocaliser ensuite. Ces suppôts de Sellières s'engagent pour le oui à la Constitution européenne. Simplement ça me fait dire que ça ne peut pas être bon pour nous et l'emploi en France. Et c'est sûr, je voterai non. J'allais oublier. Le gouvernement aussi ose nous faire travailler un jour de plus pour les personnes âgées. Mais quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il faut arrêter de voter pour ces gens-là? J'espère qu'ils vont se réveiller. Voilà. Au revoir.
Eh ben, pour ceux qui veulent poursuivre le pèlerinage de Saint-Jacques et son histoire sur l'autoroute A64, aire d'Astingue, entre Bayonne et Toulouse, vous pouvez vous arrêter sur cette aire thématique où vous pourrez parcourir, visiter les routes, les chemins de Saint-Jacques. Cette aire est située à l'intersection de 3 des chemins français de Saint-Jacques et est également accessible du petit village d'Astingue qui est tout près de l'aire d'autoroute. Voilà, bonne visite, prenez l'air.
Qu'est-ce qui s'est passé hier en Europe? Une petite minorité d'Espagnols a voté. Et puis c'est tout, à en croire les médias. Eh bien non, c'est pas tout. Hier, leurs voisins, nos voisins portugais, ont voté, eux, massivement. Pas pour dire oui à la Constitution européenne, mais pour changer de gouvernement. Pour renvoyer la droite qui les a menés au marasme. Le Portugal, pays de mon mari, va mal. Il le doit au libéral Monsieur Barroso, l'actuel président de la Commission européenne, qui a dirigé le Portugal ces dernières années, et puis, quand il a senti le vent tourner, il s'est fait nommer à Bruxelles. Ces derniers jours, avez-vous vu sur une chaîne de télé ou entendu sur une radio des reportages sur la situation au Portugal? Sur l'état de son opinion publique? Rien. Silence sur toute la ligne. Les politiques et les commentateurs n'arrêtent pas de nous seriner à propos du peuple européen. Ils y croient absolument pas. Leur discours, c'est que de la stratégie politique. L'Europe, ils s'en servent et puis c'est tout. Le marasme portugais, ça aurait fait tache dans le concert droite-gauche-caviar autour de la Constitution européenne. Mais ce qui est grave, c'est que la presse, les médias, ce soi-disant quatrième pouvoir, raisonnent et agissent exactement de la même façon.
Criança e adolescente têm direito de viver, desde antes de nascer. Faça livre!
Faça livre! Faça livre!
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanti. Là-bas, si j'y suis, avec les mouvements des sans-terre en Amazonie.
Flight number 2, arriving from New York.
Combien de campements comme ça d'après toi? L'occupation comme ça au Brésil au total, des centaines?
Ils ont en ce moment 250 000 familles qui campent. C'était les chiffres qui nous ont donné...
250 000 familles qui campent comme ça, si on compte...
Ici, ils en ont 400.
Si on compte 4 personnes par famille, qui est un minimum, ça fait 1 million.
C'est ça, 1 million de sans-terres qui en ce moment campent sur les bords de route ou les fazendas au Brésil.
On rentre dans la forêt. On rentre dans la forêt, il y a des gens qui sont réunis là, sous des grands arbres.
Oui.
Tout le monde dit bonjour.
Notre camarade qui est en train d'organiser la réunion avec le cahier et le stylo.
Bonjour, nous avons ici la satisfaction de recevoir une comitiva. Dois jornalistas franceses, o Daniel e o Guiva, que é metade francês e metade iraniano. E também está com eles a companheira Maria, ela é portuguesa e ela faz...
C'est beau, hein? C'est très très beau. C'est vraiment un tableau du douanier Rousseau. Où nous nous trouvons au sud de Marabat, cette ville du sud du Pará, état d'Amazonie, au nord, on va dire, du Brésil. C'est beau comme ça. Quand on s'approche de plus près, quand on met le nez dessus, entre les hauts cocotiers, les bananiers, les manguiers, et tout ce vert, c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais c'est passionnant. Le campement du 26 mars. Voilà où nous sommes, voilà où on va se balader aujourd'hui avec ces paysans sans terre. Tierra Libertad, terre et liberté. Pour nous, terre et liberté, c'est devenu des mots évidents, allant de soi, naturels. On a oublié le sang qu'il a fallu, les vies entières, les nuits, les chansons, les poings fermés et les yeux ouverts pour arracher un peu de terre. Pas pour vendre, pas pour construire, pas pour spéculer, mais pour manger la terre, pour manger. On a oublié, et eux, non. Des millions encore sur cette terre n'ont pas de terre. Nu-pieds, sans chemise, ils espèrent encore la terre promise. Au Brésil, ils sont des millions, qui n'ont pas de droit à cette terre. Les fazenderos, les grands propriétaires terriens, se partagent l'essentiel des ressources du pays en terre arable, mais aussi en terre improductive. Depuis 1985, existe au Brésil, à la suite d'autres mouvements, un mouvement qui s'appelle le mouvement des sans-terres et qui lutte pour permettre à ces paysans sans terre d'obtenir un lopin. Et ça marche, puisque 250 000, vous entendez bien, 250 000 familles sont aujourd'hui installées. C'est-à-dire que pression a été faite sur le gouvernement pour négocier avec les propriétaires et... C'est un énorme mouvement, c'est une énorme pression qui est faite sur... Mais c'est pas seulement une histoire locale, un retard qu'il s'agirait de combler en matière de réforme agraire. Il y a un souffle politique beaucoup plus large dans ce mouvement, sans doute l'un des plus efficaces d'Amérique latine et l'un des phénomènes sociopolitiques les plus forts. Aujourd'hui, c'est pas du papier, c'est pas du discours dans les pages Idées ou Horizons, c'est pas de la pétition, c'est un vrai travail avec des vrais gens. C'est long, c'est patient. On les a suivis et on va passer 7 heures avec eux. Marabat, c'est une petite ville qui appartient totalement aux fazenderos, ces propriétaires qui sont, comme pourrait-on dire, des métastases féodales. Leur méthode, c'est que quand quelque chose les gêne, eh bien, ils envoient leur tour à gage, leur pistoleros. 2000 paysans, dans les 10 dernières années, ont été tués, abattus de cette façon.
au Brésil. Et aucun commanditaire n'a été importuné, sauf un, on l'a vu en juin dernier. C'est la raison pour laquelle le père Henri Burin des Rosiers est lui aussi à son tour sur une liste d'hommes à abattre. C'est dire la tension qui peut exister dans ces régions. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les sans-terres, qui sont les militants des sans-terres, arrachent les gens qu'on peut voir dans les grandes villes, à Rio ou à Bahia ou à São Paulo. Ils les arrachent littéralement de cette misère, des gens qui dorment dans des cartons sous le métro. Ils vont les chercher là, ils les emmènent, ils les persuadent de leur dignité, tout simplement, de recouvrer leur dignité. Et puis au bout de quelques mois, eh bien, c'est une invasion par centaines, voire par milliers de familles. On se précipite, dans la nuit, enfants, femmes, drapeaux, fourches, c'est des images extraordinaires, s'installent sur une bande de terre au bord d'une route, par exemple, ou dans la propriété plus avant d'un grand propriétaire, mais toujours sur des terres qui ne sont pas cultivées. Et puis là, ils restent, et puis là, ils attendent, et puis là, ils espèrent, et puis là, ils s'organisent. Et c'est dans un de ces camps, le camp du 26 mars, au sud donc de Marabá, que nous allons jusqu'à 18h sur Inter, la base officielle.
Para morar, saúde e educação, disso eu não abro mão, pois sou um cidadão e vou falar. Criança e adolescente têm direito de viver desde antes de nascer. Criança e adolescente têm direito de viver.
On a traversé de très beaux paysages, on reste quand même des enfants. Hein. Les paysages d'Amazonie, on rêve d'Amazonie. Et en sortant de la ville de Marabá, il y a effectivement, ça y est, on y est là. On se dit, où sont les perroquets, où sont les serpents, où sont les guépards? Parce qu'il y a tout ça, il y a encore toute cette faune. Et puis, ben non, ça dure quelques kilomètres. Et on apprend que ça, c'est un parc naturel. Mais après, eh bien, sur des heures et des heures et des heures et des heures de voiture, tout a été déforesté, tout a été dans les dernières décennies brûlé systématiquement. Reste de temps à autre comme un balai de chiottes, un pauvre palmier comme ça qui reste. Et qu'est-ce qu'on a fait après avoir tout brûlé? Eh bien, on a planté de l'herbe par avion. Pourquoi faire? Pour faire de l'élevage, pour faire du bétail. C'est des paysages très bizarres, très... On a une impression de nausée, de cauchemar. Pourquoi ça marche comme ça? C'est assez simple à comprendre. Le Brésil est l'un des pays les plus endettés du monde. Donc dépendant des bailleurs de fonds. Et parmi les bailleurs de fonds, il y a évidemment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui soumettent ce pays à des plans d'ajustement structurel, comme on dit, c'est-à-dire astreignent ces pays à certaines politiques. Et en l'occurrence, évidemment, pour rembourser la dette, eh ben il faut exporter. Et pour exporter, on exporte ce qu'on peut exporter. Et le plus rentable, c'est le soja et c'est la viande. Et voilà pourquoi on déforeste l'Amazonie. La viande, on vient de traverser des propriétés immenses qui appartiennent à une grande famille qui s'appelle Diamantis, ça s'invente pas, qui est propriétaire d'un tas de choses, d'un tas de commerces, de chaînes de magasins, d'usines de toutes sortes, etc., et qui n'ont que 20 000 têtes de bétail, c'est tout. Ce bétail, c'est des espèces de bestioles grises, assez tristes, dans cette verdure étrange, c'est ce que vous bouffez dans vos McDo. Oui, c'est ça sert vraiment directement au McDo, parce que ces bétails sont vendus pour l'industrie alimentaire américaine, tout comme du Nord américain, enfin des États-Unis, on va dire, tout comme le soja. Tout ça permet de faire rentrer des devises pour rembourser une partie de la dette, souvent seulement les intérêts de la dette. Ce système-là, ça marche gentiment, sauf qu'évidemment, ça fait énormément de victimes qui sont les petits paysans. Et même les gros, même ces grands propriétaires n'y trouvent pas toujours leur compte dans l'élevage, ils le trouvent ailleurs, parce que évidemment, les conseils du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale s'adressent à toute l'Amérique latine. Donc tout le monde produit de la viande, tout le monde produit du soja, évidemment les cours baissent. Dans cette région où nous sommes, les paysans ne mangent pas de viande. Ça va dans les McDo, c'est vrai. On détruit donc toute une région, disons. Et là, on est dans dans une bande encore de forêt, une langue de forêt, on va dire, qui appartient à une grande famille, une des plus grandes familles de la région qui s'appelle Muntran. Et là, des familles de sans terre se sont installées dans ces terres improductives. Alors on arrive dans le campement, dans la végétation, et tout de suite il y a poste de garde, il y a baraque avec protection. Pourquoi ? Parce que les propriétaires terriens, les fazenderos, envoient leurs hommes de main, envoient leurs pistoleros contre les occupants. Comme on peut s'en douter, on est avec Give, on est avec Maria et on est avec un ami militant des Sans Terre, Milan. Là, c'est un poste de garde là où on est.
C'est un duo campement.
Oui, c'est une baraque de sécurité.
Le moment où sont trois qui sont fonctionnant.
En ce moment, il y en a que trois qui fonctionnent.
Non, les époques de meilleure tension sont 14.
Mais au moment où il y a des tensions fortes, il y en a 14 qui fonctionnent.
Ah, il y a eu des agressions déjà. Il a fallu se protéger.
Il y a eu muitas ameaças e muitas vezes foram vistas pessoas armadas ao redor do acampamento.
On a eu beaucoup de menaces et on voit des gens armés autour du campement.
Vous êtes armés vous-même? Les gardes sont armés?
Bon, tem algumas armas para caça, né?
Nous avons seulement certaines armes pour la chasse.
Ah, et qui peuvent servir éventuellement pour se défendre.
Foices, enxadas,
on a surtout des outils de travail
chamadas por fora, né?
On a quelques fusils qu'il faut charger par le canon,
ouais.
À chaque fois, mais sinon c'est surtout des instruments de travail, des faux, des machettes, des bêches.
Mais il y a déjà eu des accrochages?
Só a polícia ameaçou de entrar e os pistoleiros vieram até a entrada aqui.
Les flics nous ont menacé d'entrer et les pistoleros sont arrivés jusqu'à l'entrée ici de ce côté. Et de l'autre côté aussi, les pistoleros sont arrivés.
Ah ouais,
mais surtout, ils ont attaqué des gens sur la route.
Ils pegaram as pessoas e bateram muito.
Ils ont pris, ils ont rapté des gens sur la route, ils ont séquestré des gens. Ils les ont beaucoup cognés dessus avec des éperons et avec les fouets qu'on utilise pour les chevaux.
Des éperons, ça veut dire qu'ils sont à cheval?
Si, ils andent sempre à cavalo para guardar as cercas da fazenda.
Oui, les pistoleros sont toujours à cheval pour garder les
propriétés.
Les propriétés, les fazendas. On les appelle nous les vachers.
Comme
les cowboys, quoi.
Alguns muito violentos.
Certains sont très violents.
Très violents. Ouais. Et donc c'est pas facile pour les familles. De rester au début, cette occupation a été faite par 1200 familles. On compte en famille dans le mouvement des sans terre. Combien ça fait de personnes? Une famille, ça peut être 4, ça peut être 6, on ne sait pas très bien. On compte par famille. Donc il y avait, mettons 4, ça fait 5000 personnes qui sont précipitées le 26 mars pour s'installer. Mais vous voyez la pression, le climat, il y a des moustiques, c'est pas facile, il faut travailler, il faut gratter la terre pour arriver à faire pousser quelque chose, d'abord pour manger, ensuite pour vendre, etc. Si bien qu'au départ, il y avait 1200 familles, ils ont été virés une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, c'est d'un entêtement formidable dont ils font preuve. Aujourd'hui, combien reste-t-il de familles?
Na verdade, são 800 que foram embora, porque tem 400, né?
En réalité, il y en a 800 qui sont partis, puisque maintenant on n'en a plus que 400.
Voltaram para as periferias das cidades, foram procurar emprego em outros
dans les banlieues de la ville, ocuparam outras áreas em outros lugares, dans d'autres villes. Elles sont parties faire de la recherche d'or.
Foram buscar uma forma de viver.
Elles ont recherché une nouvelle forme de
vie. Bien sûr. C'est pas facile de s'accrocher ici quand même.
Non, tem que ter muita resistência.
On a besoin de beaucoup de résistance, les difficultés sont très grandes.
Fome,
on a la
doenças.
Faim, la maladie.
Résistance et organisation, c'est pas le tout d'occuper, il faut vivre, c'est des familles, des femmes, des enfants. Il y a une scolarité, vous allez voir, immédiatement un campement comme ça installé, eh bien, on fait l'école tout de suite, et puis on s'organise. On s'organise en famille, on s'organise en groupe. Il y a un projet de resocialisation pour le mouvement des sans-terre. C'est pas seulement une ONG à laquelle on donne un peu de pognon comme ça de temps en temps pour se libérer la conscience et s'assurer un certain confort moral. C'est un vrai travail en profondeur, un travail social et un travail politique.
Nous sommes ici en réunion. Do grupo do acampamento.
Ici, nous sommes en réunion du groupe du campement. C'est la réunion du groupe d'organisation du campement, de la coordination pour l'organisation du campement.
Aqui nós estamos discutindo como é que nós podemos resolver os nossos problemas aqui do acampamento.
Ici, nous discutons tous les jours des problèmes quotidiens et de comment nous pouvons résoudre nos problèmes quotidiens au niveau du campement.
C'est l'alimentation.
L'alimentation.
Cesta base,
les paniers repas.
O fomento. Nada disso
la cueillette.
Temos.
Les financements du gouvernement auxquels nous avons droit et que nous ne touchons pas. La désappropriation de la terre par l'INCRA.
Et tout le monde vient là tous les matins?
Non, nós temos dias consignados. Quarta e sábado.
Pas tous les jours, c'est le mercredi et le samedi.
Os coordenadores se reúnem aqui, vão discutir.
Les coordinateurs des noyaux se réunissent ici pour discuter.
Et à tarde, nós a reunimos com os núcleos.
Et l'après-midi, chaque coordinateur de chaque noyau se réunit avec son noyau.
Et explique les décisions qui ont été prises ici.
C'est ça.
D'accord.
Il y a 54 noyaux ici, dans ce campement.
C'est très structuré, hein?
Ouais.
D'accord. Et chacun vient avec son cahier, sous le bras.
Même si on est très structuré et très organisé, ça marche pas toujours.
Ah oui. Est-ce qu'il y a des bébés qui s'appellent 26 mars, non?
Non, mais il y a des petites filles qui s'appellent Victoire.
Le village, c'est des maisons en bois, avec des... C'est des paillotes, quoi, assez vastes, entièrement en bois, qui s'échelonnent, là, sur une pente assez douce.
Ici, c'est l'école.
Alors, c'est la première chose.
On a construit deux très, très belles baraques pour avoir l'école.
Ah ouais, terre battue, des bancs en branches, en bois, le tableau noir.
O que nós tomamos mais importante hoje é sobre a escola, né, que vai começar.
La discussion et la décision la plus importante qu'on a pris aujourd'hui, c'est sur l'école, parce que c'est la rentrée des classes.
Ah oui.
Et para segunda-feira as crianças estão tudo lá na escola.
Ici, lundi, la rentrée scolaire ici dans le campement aura lieu lundi. Tous les enfants vont rentrer à l'école ici lundi.
Les institutrices sont là, il y aura des profs.
Ce sont des professeurs, il y en a quelques-uns qui sont ici. Ce sont des professeurs, les deux filles là-bas.
Elle est institutrice?
Les deux filles là-bas.
Elle est jolie comme tout en plus, cette femme.
Oi.
Bonjour. Vous êtes institutrice ici?
Oui, ça fait un an que je suis professeure volontaire ici dans l'école du campement.
Comment vous vous appelez?
Francilène.
Francilène, c'est un joli prénom, c'est un prénom français.
Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire être volontaire? C'est-à-dire que vous habitez à Marabá et vous venez ici volontairement ou...
Non, volontaire, parce que je travaille sans recevoir rien.
Non, volontaire, je suis prof volontaire parce que je travaille sans rien recevoir.
Fui cadastrada aqui,
non,
et aí,
je suis venue ici pour occuper cette terre et après, les copains m'ont demandé d'être prof ici pour les enfants.
Pourquoi vous avez voulu participer à l'occupation de la terre?
Porque eu acho que para as pessoas pobres é o melhor meio de vida que tem, porque não adianta nada a gente ficar na cidade e não ter como sobreviver.
Parce que pour les gens pauvres, c'est le meilleur moyen de survivre, ça sert à rien de rester en ville parce qu'en ville on n'a plus de moyens de survivre.
Comment est la vie? C'est pas un peu dur ici?
É muito duro. Tem gente que não tem praticamente o que comer, passa bastante necessidade.
Oui, la vie est très dure ici quand même au campement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez à manger et qui ont faim.
Vraiment? Vraiment il y a des problèmes de nourriture?
Bastante.
Oui, c'est un grand problème.
Há muitas famílias que vão embora pela necessidade, acho que está demorando muito e desistem.
Il y a beaucoup de familles qui sortent du campement, qui s'en vont, qui quittent le campement parce qu'elles trouvent que ça dure trop longtemps, qu'il faut lutter trop longtemps pour obtenir sa terre.
Lui, il a un maillot qui vient de France, là, 98.
Une camisette qui vient de France.
La Copa.
Ah oui.
Vous êtes meilleur pour les occupations que pour le foot, hein.
Le nom est Juvenil Pereira.
Juvenil Pereira.
Juvenil, mais ça veut dire qu'on est toujours jeune quand on est juvénile.
Juvenil.
Ah, eu penso, né? Eu não penso em ficar velho, não.
J'espère bien rester tout le temps jeune, je veux pas vieillir.
Eu mesmo mais na minha vida, sabe? Eu me arrependo muito assim da gente ter cometido uma grande falta perante o nosso Deus, né?
Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir commis des erreurs.
Deus fez o homem para ele ficar novo todo o tempo, né?
Que je pense que Dieu a créé l'homme pour qu'il reste jeune tout le temps.
Ah! Ça, c'est malin. Et alors on me dit que tu commences l'école?
Oui. Je sais un peu.
Je sais un tout petit peu écrire et lire.
Et comment tu es venu jusqu'ici?
Muito difícil, né, no tempo que eu vim, né? Uma luta para chegar aqui.
Ça a été une grande lutte pour réussir à arriver ici.
Pois é, e lá no estado que eu morava.
Là-bas, dans l'état où j'habitais, le Ceará.
Muito difícil também, né?
La vie était très dure aussi.
E aí eu comecei a construir família e achei que lá não dava, né?
J'ai commencé à avoir une famille et j'ai pensé que je pouvais pas élever ma famille là-bas.
Qu'est-ce que tu faisais comme boulot?
Ah, braçal mesmo, serviço braçal.
Je vendais mes bras, je vendais ma force de travail. Okay. Travailler au champ.
La fazenda?
Trabalhei já.
Oui.
Mas não gosto não.
J'ai déjà travaillé beaucoup dans les fazendas, mais j'aime pas ça.
E pourquoi?
É porque os donos usam covardia com a gente, né? Bota para trabalhar, não paga. Às vezes até manda matar, né?
Parce que les propriétaires sont lâches avec nous. Ils nous appellent pour travailler, ils nous donnent du boulot, mais ils ne nous payent pas. Et puis même des fois, ils nous font assassiner.
C'est pas un mot en l'air. C'est pas un mot en l'air ce que dit cet homme. C'est la vérité. Je disais tout à l'heure, dans les 10 dernières années, il y a une... 2000 paysans ou militants qui ont été assassinés. Et dans le passé, vous allez voir tout à l'heure, on va rencontrer Pedro, qui lui est la bouteille, c'est le plus âgé de ce campement, et qui se souvient des méthodes, mais qui sont toujours employées. On a des confrères journalistes et un confrère photographe, Canalonga, qui a fait un reportage sur dans cette région, d'ailleurs pas très très loin, et qui a assisté à un crime, c'est-à-dire un paysan qui était abattu par un pistoleros, et puis la police est arrivée à arrêter le pistoleros, et il y avait la commanditaire, une vieille propriétaire qui était là, qui a été arrêtée aussi. Inutile de dire que le pistoleros a été relâché, et à plus forte raison, la commanditaire qui appartient à la plus grande famille de cette région. Mais ils ont pu photographier ça il y a un an, je crois, un an et demi. Donc ça continue bel et bien, et c'est dire l'état d'esprit de ceux qui sont dans ce campement depuis donc le 26 mars 99 et qui résistent et qui espèrent et qui attendent leur terre promise.
Bandeira, bandeira, bandeira vermelhinha, o futuro do Brasil está na mão dos sem terrinha. Bandeira, bandeira, bandeira vermelhinha, o futuro do Brasil está na mão dos sem terrinha. Nós somos sem terrinha do estado do Pará. Nós somos militante e reforma agrária já.
Esses barracos aqui vocês vão poder ver muitos assim.
Ces petites huttes comme ça, vous allez en trouver beaucoup.
Des collectifs.
C'est nos
préaux.
Voilà, c'est nos préaux collectifs.
Tout à fait penser à des certains villages. Des certains villages d'Afrique.
Vous connaissez là?
Ok.
Ah, la Rara.
Ouais.
Voilà, oh, c'est joli là. Bon dia.
Il y avait mes araras, né?
Quelle merveille ce perroquet, regarde ça. C'est le rouge, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de couleur rouge.
Rouge, mais là, c'est un vermillon. C'est des oranges, c'est des jaunes très forts, de chrome. Il y a des bleus très violents, très beaux.
Et dans ces espèces de joues ridées de vieillard, un œil rond et un bec extrêmement pointu. Je pense qu'il faut être très malin pour pas se faire piquer les pattes. Mais le monsieur le tient sur son bras devant nous.
Il a 7 ans, depuis que je suis venu ici dans le campement, c'est plus difficile. Mais avant, je lui achetais toujours des petites graines de tournesol. Je lui donnais des graines de tournesol. C'est pour ça qu'elle a de très belles plumes, parce qu'elle était très bien nourrie.
Il lui tient le bec comme on tient le nez d'un môme, mais quand il la caresse, puisque c'est une arara, les plumes se redressent. On est un peu comme un chat, c'est fou. Ouais.
Okay.
Obrigado. Kalaya, t'as vu, c'est costaud ça, hein, c'est fait avec des palmes séchées, les parois de cette case là. Voilà, c'est comme des petites places, hein, c'est comme une succession de petites places. De petits noyaux. Au milieu de chaque petite place, il y a un préau. Autour du préau, une quinzaine de cases. Et dans chaque case, des... Ah là, il y a des tortues, des grosses tortues. Ouais. Magnifique.
On va savoir si vous comez jabouti. Carne de jabouti.
Est-ce que vous avez déjà mangé du jabouti? C'est de la viande de tortue.
Non, j'ai jamais mangé. C'est la maison de qui ça?
C'est sa maison.
Faut pas être gros, dis donc. Eh. C'est pour les mecs. Oups là.
Aqui onde eu cozinho.
Ouh, regarde ça.
Et je fais
là, il y a un petit réchaussé joli. Elle a mis des petits napperons, des petits tissus. C'est propre. Elle s'est même fait un genre de papier peint en collant des pages de journaux sur les branchages, sur les feuilles séchées.
J'ai un petit oiseau.
Elle a un petit oiseau là-haut.
Ça, c'est ma lumière, ma lampe à pétrole.
Elle a bricolé une lampe à huile.
Aqui é minha dormida.
Dá pra gente entrar?
Dá. Dá pra dormir?
Vous pouvez venir rentrer et dormir si vous voulez.
Qui a construit la maison? C'est vous?
Moi-même.
On est allé cueillir les palmes, on les a nouées.
C'est sympa, hein? C'est bien, la petite fille nous montre la plus belle racine de manioc.
Est-ce que vous voulez qu'elle vous la cuisine?
Tu sais le faire? Tu sais cuisiner?
Dans 30 minutes, elle est prête.
D'accord, et bien on revient dans 30 minutes. Ah bon, ok, j'attends. Pour goûter, pour le plaisir.
C'est pas bon.
Eh oui, une journée heureuse en Amazonie, dans ce campement des paysans sans terre. Évidemment, tout ça n'est pas aussi angélique qu'on nous le présente, peut-être, quoique c'est très sincère, la façon dont les gens s'expriment. Il y a plein de problèmes qui les attendent, ils en sont conscients, mais ils ont échappé quand même à beaucoup d'autres problèmes. Il suffit de s'être baladé un temps soit peu dans les bas quartiers de ces énormes villes du tiers-monde en général, mais São Paulo, Rio, Bahia, etc., pour voir ce qu'ils ont fui, ce à quoi ils se sont arrachés pour essayer une nouvelle vie, une autre vie, une autre vie est possible, un autre monde est possible. Et là, ils le font, ils le montrent, ils sont en train de le vivre et d'accomplir, de construire leur propre monde à eux. Alors, je parlais de Pedro, c'est le plus âgé de ce campement et il a une mémoire, il raconte ce que fut et ce qu'est toujours, à quelques nuances près, la vie dans cet endroit du Brésil, au sud du Pará.
Quand je cheguei aqui.
J'étais enfant quand je suis arrivé ici.
Mas era castanhal.
Mais c'était pas une fazenda, c'était uniquement des châtaigniers.
Pedro, vous avez commencé à travailler à quel âge, vous?
12 ans.
12 ans.
Vous étiez allé à l'école un peu? Vous avez été à l'école quand vous étiez gosse ou?
Non. Non, eu saí, fugi de casa pequenininho, 8 ans.
Je me suis enfui de chez mes parents à l'âge de 8 ans.
Et pourquoi?
Era o mais feio, era quem mais apanhava.
J'étais le plus moche, alors j'étais celui qu'on t'appelle plus, alors j'en ai ras-le-bol. Aí, eu
fui embora pros garimpos.
J'en ai ras-le-bol et je suis parti comme chercheur d'or à 8 ans.
Ça doit être terrible quand on est enfant, quand on a 8 ans comme ça, puis qu'on s'en va tout seul.
Eu pedi a carona.
Oui, je me suis enfui et je demandais du stop.
Morro e não digo, diz aqui tem diamante, aqui tem ouro.
Ah, moi je sais où se trouve l'or et où se trouvent les diamants ici dans la fazenda, mais je ne le dirai pas.
Ah, eu provo, se for obrigado a provar, eu provo.
Si on m'oblige à le prouver, je peux le prouver.
Mais quand vous, est-ce que vous en avez trouvé, vous, quand vous avez travaillé comme garimpeiros, est-ce que vous avez trouvé de l'or?
Em muitos garimpos, que eu tenho andado em garimpo demais.
J'ai beaucoup travaillé dans les garimpos, donc j'ai trouvé beaucoup d'or.
E tem joia.
Je revendais cet or et j'ai gardé quelques bijoux.
Et pourquoi vous luttez avec le MST alors maintenant, avec le mouvement des sans terre?
Le MST agora.
Por quê? Ó. Arrumar o que comer, que eu tô de menor, mas preciso, ó.
Parce que je suis comer. Mineur. Je suis mineur, je suis un enfant mineur. Enfin, parce qu'il est retraité, c'est le seul retraité. Et j'ai besoin de manger.
Beaucoup de ces paysans, de ces Brésiliens, disons, se déplacent, se sont déplacés à travers cet immense pays, un vrai continent, hein, qu'est le Brésil, au gré des nécessités économiques, cycle de l'EVA, cycle du cacao, cycle de la canne à sucre, et déplacements au gré de, voilà, pour aller manger, tout simplement, pour manger, pour bouffer, c'est aussi simple que ça. Et il y a eu le grand moment dans cette région. Nous sommes dans la Serra Pelada, pas très loin de là. Eh bien, il y a eu le garimpeiros, c'est-à-dire les chercheurs d'or, et beaucoup sont venus dans cette région dans l'espoir de l'or, dans la fièvre de l'or. Mais Pedro, lui, il était sur les châtaignes, sur les fameuses noix du Brésil, les noix du Pará. Eh bien, c'est ici, enfin, c'était ici, parce que la plupart de ces châtaigniers maintenant ont été détruits, ont été brûlés, et je le disais, à la faveur de ces élevages pour remplir nos McDonald's. Mais les conditions d'exploitation, qui restent très très féroces, ont été vraiment terribles. Et Pedro a témoigné de tout ça. Et Milan, qui est avec nous, Milan, se souvient du témoignage de Pedro.
Mas o seu Pedro conhece a história de como era feito, que eram amarrados os funcionários da fazenda.
Monsieur Pedro nous a raconté, il connaît très bien les histoires, que les employés étaient attachés aux arbres.
E eu estou dizendo isso porque não porque ele me contou, mas porque eu acompanhei o depoimento na Procuradoria da República.
J'ai accompagné sa déposition auprès du procureur de la justice et tout ce qu'il a dit, on a pu le vérifier.
Comme vous avez vu les hommes, des hommes qui étaient attachés aux arbres.
Homens amarrados às árvores.
Muitas vezes.
Oui, de très nombreuses fois.
Em riba do formigueiro.
Et on les attachait par-dessus les fourmilières.
Formiga de fogo.
Les fourmis rouges. Les fourmis de feu.
Matar depois.
On les torturait pour les tuer ensuite.
Não era para deixar o dinheiro, matava e deixava o dinheiro. C'était ou se tinha um segredo na fazenda, e ele sabia, mandava matar.
C'était pour qu'ils laissent leur argent,
on les tuait pour qu'ils ne touchent pas leur salaire, ou alors on les tuait aussi parce que s'il y avait des secrets dans la fazenda et qu'ils étaient au courant, on les descendait.
Aí começaram a matar e eu via.
Alors là, ils ont commencé à tuer et moi je les voyais tuer.
Matava, via se amarrado. Uns aux autres, assim.
Ils tuaient les paysans et les attachaient les uns aux autres, collaient les uns aux autres et les mettaient dans des trous.
Matava o menino, jogava pra cima e...
Ils prenaient des enfants, ils les jetaient en l'air et lorsque les enfants retombaient, ils retombaient sur leur machette.
Vous avez vu ça?
Oui.
Oui, j'ai vu ça.
Oui. Et quand j'ai entré dans le MST, aí eu rasguei o balcão.
Et quand je suis rentré au MST, c'est là que j'ai tout raconté.
Eu sabia do cemitério tudo. Sabia,
moi,
je savais
et je sais encore où était et où se trouve encore le cimetière.
Ali na fazenda.
Ici, dans la fazenda.
Le charnier, alors. Vous saviez où était le charnier, vous l'avez dit aux autorités?
Conté.
Oui, je l'ai dit aux autorités. Et ils ont même pris des morceaux d'os pour les analyser et les os ont voyagé, je ne sais pas pour où.
Sont 17 corps.
17 corps.
Un
charnier de 17 corps.
Agora os outros que é espalhado tem mais.
17 corps uniquement dans le cimetière clandestin, ceux qui ont été regroupés dans des fosses. Mais maintenant, il y a d'autres corps éparpillés un peu partout.
Et vous savez où ils sont? Vous pourriez les trouver?
C'est ça, bon, d'Akstan, mais ces autres, je
crois. C'est tout, hein?
Oui, je sais exactement où ils sont tous.
Je sais tous les secrets d'ici.
Je connais tous les secrets ici.
Pedro est courageux, Pedro, on espère, sait de quoi il parle, et en tous les cas, il a le courage de parler, ce qui est très très rare évidemment dans cette région, c'est la loi du silence qui prévaut. La plus grande famille du coin, la famille Moutran, la fameuse famille Moutran, est propriétaire de tout, je le disais, de quasiment toute la ville de Maraba. Il y a la place Moutran, il y a l'église de la famille Moutran, il y a l'avenue Moutran, ils sont absolument propriétaires de tout, et ils ont 70 hommes de main, de sécurité, comme on dit, à leur service, c'est-à-dire une petite armée. C'est aujourd'hui, c'est au Brésil, c'est pas le seul endroit du Brésil où on peut voir des choses comme ça, et les pistoleros sont toujours à l'œuvre.
Et les pistoleros, alors ces hommes de main, ces tueurs à gages qu'ils utilisent, est-ce que tu en as connu?
Tous connus les pistoleros de l'époque. Maintenant, il n'y en a plus que trois qui sont vivants.
Tu les connais, les trois?
Ils vont se connaître, ces trois vivants? Oui, je les connais.
Ils vivent
où? Il y en a un qui habite à Marabá.
Il y en a un qui habite à Marabá.
Nessa noite mesmo, eu vi ele.
La nuit dernière, je l'ai vu.
Il tem sobrosso de mim.
Lui, il vient me parler parce qu'il a peur de moi.
Il a tué combien de personnes?
Non, sobre sair tempo de a gente só vira a gente morto. A gente não tem a soma dos que eles mataram.
On peut pas savoir. On n'a même pas le chiffre de l'ombre de ceux qui ont tué.
Et les deux autres sont où?
Um tá para redenção, o outro
ah,
tá.
Ah, está redenção, redenção.
E o outro Rio Maria.
E l'autre à Rio Maria.
Pistola lá.
E celui de Rio Maria, il est pistoleros là-bas.
Esse outro vai sair depois de amanhã.
Et celui avec qui j'ai parlé hier, il va sortir vendredi, après-demain.
Ça y est, depois de demain.
Il va sortir après-demain pour aller faire un travail de pistolage.
Il te l'a dit?
Allô?
Oui, il me l'a dit.
C'est-à-dire qu'il va tuer quelqu'un?
Vai, é oui, claro que vai, para ganhar o dinheiro.
C'est ça, pour gagner son argent.
Ele tem mais chance de ficar vivo, né?
Tem uma mãe bonita.
Le petit Santerre, là, à côté, il a une mère très jolie.
Et
sa mère, elle est très jolie. Oh là là.
Cortando cabelo. Quand je fais barrer là, je dis, voilà, il y a aussi.
Ah, elle coupe les cheveux. Elle est coiffeuse. Alors je suis arrivée un jour et je lui dis, tiens, viens me couper les cheveux. Regarde comme je suis beau.
Aïe, elle. Ouais.
Ah, et elle m'a fait la barbe. Elle m'a rasé la barbe.
Bonjour, Marcia.
Elle a une main très légère.
Tu deixes le faire ainsi de temps, hein?
Il paraît qu'un homme perd sa peau, mais il perd jamais ses habitudes.
Oh.
C'était Là-bas si j'y suis, reportage au Brésil de Guy Vanctil et Daniel Mermet. À noter un site d'information sur l'Amérique latine, Rizal.
France.collectif avec un S.net. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, à la technique ce soir, Patrick Henry et Sophie Moreno, Yann Chouquet, Christophe Humbert et Pascal Pascariello forment l'équipe du jour de Là-bas, si j'y suis. Demain, suite et fin de ce reportage sur le mouvement des Santerres.
Est-ce que vous voulez entendre et enregistrer leurs mots d'ordre, leurs cris?
Ah oui.
Le final de toute réunion.
À la fin de chaque réunion, on lance toujours notre mot d'ordre.
Et pour
Magraria! Et pour Magraria! Et pour Magraria!